Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission.
Bonsoir à tous et merci de regarder. C'est à vous, on est en direct jusqu'à 20h55 et je suis heureux d'être avec l'équipe Jean-Baptiste.
Bonjour,
salut
Annie.
Pierre, Eva.
Salut, Annie.
Salut Mathieu et Mohamed. Au programme
bonsoir,
ce soir
Annie.
De ton édito, Jean-Baptiste.
Eh bien, après la présidentielle, bientôt un troisième tour. Certains en rêvent à l'occasion des élections législatives de juin. Alors d'autres espèrent prendre leur revanche plutôt dans la rue, dimanche à l'occasion du 1er mai. Mais n'hésite pas pour certains à remettre en cause le choix des Français dans les urnes, on le verra.
Bon, on en parlera en tout cas avec le secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat de France, Laurent Berger, qui est l'invité de C'est à vous. Et il nous dira justement ce qu'il pense de ce quinquennat qui commence et ce qu'il en attend. Mohamed, dans la story du jour.
En France, 6 PV sur 10 concernent des contraventions de moins, des excès de vitesse de moins de 5 km/h. Et donc, une sénatrice Les Républicains veut assouplir les règles. Ça fait plaisir à 40 millions d'automobilistes, mais ça fait pas du tout plaisir à la prévention routière. On en parle ce soir.
Évidemment. Et dans l'actualité aussi, Eva, la guerre en Ukraine.
Oui, 33 milliards de dollars, c'est la somme versée par les États-Unis à l'Ukraine. C'est Joe Biden qui l'a annoncé hier.
L'analyse du changement de stratégie de Joe Biden avec l'historien Corentin Célin qui nous rejoindra tout à l'heure. Mathieu, dans le 5.
L'Organisation internationale de la vigne et du vin qui nous alerte sur la production en baisse pour la troisième année consécutive. Le changement climatique, il va falloir s'adapter, peut-être changer de cépage. Eh bien, moi, je vous présente un cépage qui résiste aux maladies et aux intempéries.
Et l'œil de Pierre.
Eh bien, l'occasion était trop belle. Comme on va beaucoup parler de Jacques Martin en deuxième partie, moi, je ferai un clin d'œil, un grand clin d'œil à Jean-Yann.
Et justement, après 20h, la légende Jacques Martin au cœur d'un documentaire exceptionnel. On en parlera avec quelques-uns de ceux qui l'ont très bien connu. Daniel Evenoud, David Martin, Virginie Lemoine et Frédéric Zetoun. Mais pour commencer, l'actualité évidemment ce matin, c'était l'INSEE qui rendait public les derniers chiffres de la croissance. Mauvaise nouvelle, un passage à vide pour l'économie française.
La hausse des prix qui se confirme.
Le chiffre de l'inflation est tombé ce matin, plus 4,8% sur un an.
4,8%?
Au plus haut donc depuis les années 80.
Dans les supermarchés, la note est de plus en plus salée.
Et les Français, ils sont bien obligés de s'adapter.
Les familles qui sont contraintes, de faire des arbitrages.
Le moral des ménages est en très forte baisse au mois d'avril, avec une préoccupation majeure, c'est bien évidemment cette inflation.
Bonsoir Laurent Berger.
Bonsoir.
Et bienvenue secrétaire général de la CFDT, je le disais, le premier syndicat de France. On a beaucoup de questions à vous poser. Vous avez évidemment vu et analysé ces chiffres, l'inflation qui se poursuit alors que la croissance était de 0% au premier trimestre en France. On va en parler, mais on est juste avant le 1er mai, c'est une date importante pour l'ensemble des syndicalistes. Début d'un tout nouveau quinquennat. Quelle est votre première revendication à la CFDT ?
La première revendication, on vient d'en sortir 15 qui sont des revendications de court terme, mais la première revendication, là, clairement, ce qui nous remonte de toutes les équipes, c'est la question du pouvoir d'achat et donc des salaires. On va avoir le SMIC qui va être valorisé au 1er mai. Ça va faire passer 144 branches avec des minima en dessous du SMIC leur démarrage. Donc il y a besoin de négociations salariales et de revaloriser les salaires.
Il faut protéger le pouvoir d'achat. Est-ce que vous demandez aux entreprises de vous mettre tout de suite, aujourd'hui, autour d'une table pour augmenter les salaires ?
Oui, c'est ce qu'on demande dans les entreprises, c'est ce qu'on demande dans les branches professionnelles. Enfin, c'est l'essentiel des branches professionnelles. Aujourd'hui, elles ont 1, 2, 3, 4, voire 8 échelons en dessous le SMIC. Ce qui veut dire que lorsque vous démarrez, vous avez le SMIC quand même, mais vous y restez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Mais vous n'en appelez pas directement au MEDEF, à la CGEPME ?
Si, c'est un appel au patron, un appel à négocier dans les branches professionnelles, un appel à négocier dans les entreprises pour des revalorisations salariales. Quand on a 4,8% d'inflation, ça veut dire que ça pèse, et ça pèse particulièrement sur les travailleurs les plus modestes qui ont des bas salaires.
Bien sûr, le SMIC va augmenter le 1er mai, plus 2,65%, ça ne vous suffit pas.
Ça ne suffit pas et c'est surtout, il faut qu'on se méfie de considérer qu'on aura fait le boulot sur la revalorisation salariale lorsqu'on aura revalorisé le SMIC. Il faut revaloriser tous les salaires, et notamment les salaires les plus bas. Aujourd'hui, il y a un tassement, il y a de plus en plus de travailleurs au SMIC. Il y a plus de 2 millions de travailleurs au SMIC qui sont d'ailleurs plutôt des travailleuses entre nous.
Oui.
Donc, il faut un niveau du SMIC qui suive le niveau de l'inflation, qui sera valorisé automatiquement, c'est le cas, mais il faut surtout que ça suive dans les branches. Et que le SMIC, normalement, c'est un salaire d'embauche quand on n'est pas qualifié. Ça ne peut pas être un salaire pérenne, et c'est malheureusement pérenne pour nombre de travailleurs aujourd'hui. Donc, il faut que les branches patronales et que les chefs d'entreprise comprennent que maintenant, avec un taux d'inflation à 4,8, il va falloir redistribuer davantage et augmenter les salaires.
Il y a évidemment l'équation d'Emmanuel Macron au début de ce nouveau quinquennat, mais il a promis un chèque alimentaire pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat. Il y a un bouclier tarifaire qui est toujours en place pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Il y a déjà 20 millions d'euros qui ont été investis ou promis. Comment est-ce qu'on peut financer davantage, comment est-ce qu'on peut compenser davantage les pertes de pouvoir d'achat, faire face à l'inflation quand le pays est déjà aussi endetté? Vous la connaissez cette équation?
Oui, on la connaît, mais dans les entreprises, il faut dire qu'il y a nombre d'entreprises qui ont déjà qui ont quand même pas mal de marge. Ça, c'est un premier sujet. Ce dont on parle, c'est de redistribuer la richesse là où elle se crée dans l'entreprise. Toutes les marges d'entreprise ne sont pas en baisse, loin s'en faut. Donc, il y a d'abord ce type d'entreprise. Il y a ensuite ces entreprises qui sont soumises au marché public. Je pense notamment à mes collègues, on est très présents dans ce secteur-là, de la propreté.
Oui.
Dans la propreté, tant qu'on acceptera que les marchés publics soient des marchés à low cost et qu'on ne revalorise pas les prestations, on considérera que c'est normal que ces travailleurs et travailleuses qui sont essentiels soient sous-payés. Donc c'est un autre levier. Il y a un autre levier, c'est à chaque fois qu'on verse des dividendes, il faut verser la contrepartie aux salariés en termes d'intéressement et de participation. Et des dividendes, ils s'en versent un certain nombre cette année, encore une fois. Les augmentations des patrons, des grands patrons ont été très fortes.
Oui.
Il faut rééquilibrer tout ça. Ça fait partie de ce qu'on attend des mesures à venir.
Est-ce qu'il faut plafonner les plus hauts salaires comme le président de la République?
Oui, ouais, je le crois, c'est sûr. Il faut un écart maximal de rémunération entre le plus bas salaire et le plus haut salaire dans une entreprise. Vous savez, je vais prendre un exemple. À Orange, la proposition d'augmentation salariale, c'est 2,8% pour les non-cadres et 1,4% pour les cadres. Et dans le même temps, la nouvelle PDG d'Orange, elle a doublé sa rémunération par rapport au PDG précédent. Ça ne peut pas être accepté. Vous voyez bien que ça crée de la tension, ça crée du ressentiment, du juste ressentiment. Donc il faut, je crois, davantage partager la richesse et il faut des écarts de rémunération maximum.
Alors il y a ce nouveau quinquennat qui démarre dans le contexte qu'on a décrit, celui de l'inflation. Il y a évidemment aussi le contexte politique. C'est l'édito de Jean-Baptiste Marteau. Nouveau quinquennat, Jean-Baptiste, et il commence à peine. Et tu voulais revenir ce soir sur le risque de ce qu'on appelle le troisième tour social.
Oui, alors c'est une menace qui a été évoquée bien avant le premier tour. D'abord, effectivement, par l'extrême gauche trotskiste, que ce soit pour quel que soit le résultat des urnes, il faudra descendre dans la rue pour défendre et gagner nos combats, dit notamment Nathalie Arthaud. Rien de nouveau jusque-là, c'était devenu l'engagement depuis maintenant des décennies de lutte ouvrière, par exemple, pour participer aux élections démocratiques comme ils le font, mais également combattre ensuite la démocratie. C'est un peu leur objectif ensuite. Bon, ce qui est nouveau quand même, c'est que plusieurs partis de gauche et des syndicats même utilisent maintenant cette menace de troisième tour social.
Alors, c'est une expression, troisième tour social, qui n'est pas neuve, mais on l'entend différemment selon les bord où on se trouve.
Là, tout dépend effectivement de la définition qu'on met derrière cette expression. S'il s'agit d'aller dans la rue s'opposer pour telle et telle réforme proposée par le gouvernement élu, évidemment aucun problème. C'est un droit fondamental des citoyens qu'il faut préserver et même qu'il faut protéger. Mais s'il s'agit d'aller contester dans la rue le résultat des urnes, là c'est totalement différent et certains s'y sont risqués, à commencer par des élus de la France insoumise comme la députée Clémentine Autain, mercredi avec notre consoeur Caroline Roux sur France 2.
Après des législatives qui ne seraient pas passées exactement comme Jean-Luc Mélenchon le souhaite, est-ce que vous serez ceux qui diront « c'est le jeu de la démocratie » ou est-ce que vous direz « il faut aller chercher les victoires dans la rue » ?
Bien sûr qu'il faudra aller chercher la victoire dans la rue. D'ailleurs, même si on est majoritaire, il faudra continuer à aller dans la rue, je le dis très tranquillement. Ce que je veux dire, c'est que la mobilisation populaire, elle est aussi une des clés pour faire avancer la société.
Si ça ne se passe pas comme prévu, il faudra aller chercher la victoire dans la rue, dit-elle. Ajoutez à ça François Ruffin, lui aussi député LFI, qui traite Emmanuel Macron, je cite, de bâtard de François Hollande. C'était sur France Inter cette semaine. Ça donne quand même un sentiment un peu antidémocratique, voire même séditieux, diraient certains. Et ce message, eh bien, ils étaient plusieurs dizaines à l'avoir clairement entendu et l'avoir en tête dimanche dernier, au soir du second tour de l'élection présidentielle. C'était ici notamment sur des images tournées place de la République à Paris.
Et il y a ces manifestants qui mettent en doute la légitimité donc d'Emmanuel Macron, le plus mal élu des présidents de la Ve République, a dit Jean-Luc Mélenchon.
Oui, relativiser l'élection, la réélection du président de la République en référence au fort taux d'abstention, c'est un jeu, je trouve, assez dangereux. Dans ces cas-là, on pourrait aussi relativiser l'élection de Jean-Luc Mélenchon comme député des Bouches-du-Rhône en 2017, élu avec moins de 20% des inscrits dans sa circonscription au second tour. Est-il pour autant illégitime ? Non, bien évidemment, il a été élu démocratiquement. Le leader de la France Insoumise a d'ailleurs édulcoré ses propos depuis dimanche dernier. Ce matin, dans Libération, il propose de construire, je cite, une alternative positive à l'occasion des élections législatives. C'est évidemment très, très différent et tout à fait normal pour un opposant politique que de chercher à battre son adversaire dans les urnes et non d'une autre manière.
Alors, il y a les législatives qui approchent et il y a aussi, évidemment, la crainte d'un mouvement type gilet jaune. Une possibilité qui est prise en tout cas au sérieux par l'exécutif.
Oui, très au sérieux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a évoqué à plusieurs reprises un changement de méthode, un changement d'attitude, davantage d'écoute. Alors encore faut-il passer aux travaux pratiques, ne pas se contenter évidemment de la théorie. La crainte de futurs dérapages, elle est réelle, notamment au moment de la réforme des retraites par exemple. Le risque est accentué, je trouve, par une faiblesse syndicale qui devient problématique. Des organisations comme la vôtre, Laurent Berger, qui autrefois étaient capables évidemment de canaliser cette grogne sociale.
Commentaire.
Je crois qu'il y a deux risques au lendemain de ces élections présidentielles. Il y a un risque qui a été très bien expliqué, qui serait de considérer que le président élu n'est pas légitime. Il est légitime. Dans une démocratie, le suffrage universel, c'est sacré. Et il a été élu au suffrage universel, il est totalement légitime. Il y a un deuxième risque.
Vous l'avez dit très clairement, en tout cas, vous ne le partagez pas, ce procès en illégitimité.
Non, je l'ai dit très clairement dans une tribune, y compris cette semaine dans Le Monde, en disant le président de la République est légitime. Et c'est très clair. Il y a une deuxième erreur qu'il ne faudrait pas commettre, qui serait de considérer que tout va bien dans notre pays et qu'on peut maintenant dérouler. Il y a, je crois, un pays, une société qui est fatiguée, qui est tendue, avec pas mal de problèmes très concrets. On a parlé du pouvoir d'achat tout à l'heure. Pas mal d'inquiétudes face à l'avenir.
Ou est-ce que vous redoutez quelque chose comme une explosion sociale ?
Oui, on peut le craindre, comme tout le monde. On ne les voit pas forcément venir, ces explosions sociales. Elles sont, je ne crois pas que c'est simplement dû à une évolution du syndicalisme. C'est dû aussi je crois, une société qui fait moins confiance aux institutions. Le syndicalisme en fait partie, mais à toutes les institutions.
Oui.
Et donc, on voit bien que des fois, un tweet... complètement mensonger, imprime autant qu'un reportage construit par des gens tout à fait compétents pour le faire, qui sont des journalistes. Donc on a ce problème-là aujourd'hui dans la société. Et donc il va falloir entendre qu'on a besoin d'apaisement, qu'on a besoin de construction de commun, d'un horizon commun, on a besoin de s'occuper davantage de ceux qui sont les plus, qui se sentent délaissés et parfois à juste titre dans la société. Donc c'est ça qu'on appelle comme changement de méthode. C'est-à-dire qu'on pense que le président de la République, il a une responsabilité, il va avoir un gouvernement, il aura peut-être ou non une majorité, on verra. Mais en tout cas, il y aura besoin de construire et de l'apaisement et de la cohésion sociale. Et ça ne va pas être une partie de plaisir.
Et vous êtes à la tête d'ailleurs d'un syndicat dont la tradition est de négocier. Le premier syndicat de France aujourd'hui, c'est un syndicat qui négocie, accompagne, Pierre.
Qui accompagne, et vous appelez de vos voeux ce que vous appelez le grand rendez-vous social. C'est là que vous attendez la première application d'une nouvelle méthode de gouverner de la part d'Emmanuel Macron ?
Oui, je crois que si on met les sujets sur la table, ils sont le pouvoir d'achat, on en a parlé. La situation de l'emploi, ça va mieux, mais il y a quand même encore 5,5 millions de personnes qui sont sans emploi dans notre pays. L'évolution du travail...
Mais ça va beaucoup mieux.
Mais ça va beaucoup mieux, je l'ai dit. Ça va beaucoup mieux, mais on touche là maintenant des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et donc il va falloir accompagner davantage. Il y a l'évolution du travail. Le rapport au travail a beaucoup bougé dans les périodes du Covid, là. Il va falloir qu'on s'interroge autour de ça. Il y a la question du partage de la valeur créée, j'en ai parlé. Et il y a aussi la question du devenir de notre système de protection sociale. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi une inquiétude. C'est la nécessité de la transition écologique et l'impact que ça va avoir sur notre vie quotidienne et sur l'emploi. Faisons la liste de ces sujets et puis disons-nous comment on les appréhende. Est-ce qu'il faut de la concertation sociale et même de la négociation? Est-ce qu'on est capable d'être dans l'écoute et donc de passer des compromis? Ça va être ça, l'enjeu des prochains mois et des prochaines années. Et donc, on ne sera pas de trop entre ceux qui ont la légitimité démocratique par le vote, entre ceux qui s'organisent dans des associations, dans des organisations syndicales, etc., avec les élus locaux pour essayer de répondre à ces problèmes-là. Et moi, ce que je crains, en fait, c'est que en fait, chacun joue sa partition et son jeu de posture, et puis on va se mettre, excusez-moi l'expression, mais on va se mettre sur la gueule assez rapidement. Ou est-ce qu'on est capable de construire une vision partagée avec des choix qui ne sont pas toujours simples, mais où on entend le besoin de justice sociale, la nécessité de performance économique, mais aussi le besoin de transition écologique et d'écouter les citoyens. Tout ça, ça se construit. Si ça se fait dans la verticalité, comme ça s'est trop fait dans les 5 dernières années, ça n'ira pas. Donc il va falloir une nouvelle méthode, des rendez-vous sociaux, écouter, travailler, se comprendre mutuellement et essayer de passer des compromis.
Et donc au cœur de cette nouvelle méthode, de part et d'autre, une vraie considération, mais avec des actes, des corps intermédiaires.
Oui, je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire que la démocratie politique, c'est fondamental, le vote, le suffrage universel. Il y a besoin de participation des citoyens, on le sait bien. Au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle la démocratie sociale. Il y a des citoyens qui décident de s'organiser entre eux pour faire valoir des causes, des intérêts, etc.
Non, mais c'est une question profonde que vous posez, Pierre. Vous avez quand même passé des années, les premières années du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, à ne pas lui parler, à ne pas le rencontrer. Vous étiez le premier syndicat de France et vous étiez incapable de dialoguer.
C'était pas tellement de mon fait, si
non.
Je peux me permettre.
Alors justement, depuis son élection, est-ce qu'il vous a appelé?
Oui, on a échangé quelques mots. On n'a pas été sur le fond des sujets. D'abord, moi, je suis très républicain. Je l'ai félicité. Ça me paraît
Mais au moins, il vous a passé un coup de fil. Donc, il a retrouvé votre numéro.
Oui, c'était le cas avant. Vous savez, quand on occupe des responsabilités et qu'on a comme seul horizon l'intérêt des travailleurs et des travailleuses, les ressentiments, ça n'a pas tellement d'intérêt, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, j'ai le sentiment qu'on est un peu à la croisée des chemins. Est-ce qu'on continue à croire que...
On y est vraiment ?
Ah, je crois qu'on est à la croisée des chemins sur la capacité à se projeter dans une société un peu plus juste, qui se projette dans les défis du 21e siècle. La question écologique qui n'a pas été ultra présente dans les débats présidentiels est fondamentale. Non. Nous, on va faire notre premier mail là-dessus. La transition écologique et le travail. Il va falloir qu'on mette en corrélation ces deux choses extrêmement importantes, ces deux sujets extrêmement importants, pour voir comment on les fait cohabiter.
Les banderoles doivent être prêtes, transition écologique, travail, et il y a aussi une question que vous ne pourrez pas éviter évidemment, c'est la question des retraites.
Oui, on n'a pas beaucoup parlé de transition écologique, mais on a beaucoup parlé des retraites pendant la campagne. Après avoir envisagé un départ à la retraite à 65 ans, Emmanuel Macron a évoqué 64 ans avec une marge, donc pour celles et ceux qui auraient commencé tôt et auraient eu des métiers éprouvants. Cette question de l'âge et celle de la revalorisation des pensions, elles vont alimenter les débats dans les prochaines semaines. Petit exemple aujourd'hui, le président de la République était en déplacement dans les Hautes-Pyrénées et il a été interpellé sur ce sujet.
Je touche 990 euros par mois, j'ai payé 300 euros de loyer, 60 et quelques euros de mutuelle.
Vous avez une carrière complète ?
Oui, parce que j'ai le droit à travailler.
À ce qu'on appelle le minimum contributif. Dans la réforme de ce que je veux faire, ce minimum contributif qui est d'un peu plus de 980 euros, donc on le passe à 1100 euros.
Ah, ça serait bien. Moi j'ai 3 filles, 4 petits-enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire avec même pas 1000 euros par mois ?
Ce que je vous dis, si vous avez la pension complète,
oui, je l'ai.
Eh bien, je vous dis, celle-là, elle va monter dans la réforme.
C'est bien, j'espère. Mais quand ?
Ben, je pense que si on concertera, on va pouvoir le faire au début d'année prochaine.
Alors, on sent bien la volonté de faire avancer, d'avoir des résultats rapides de la part de la population. Si j'ai bien compté, comme le dit Emmanuel Macron, ça devrait être début 2023, la réforme. 2023, c'est demain. Alors, on ne connaît pas encore les contours exacts de cette réforme, mais la CFDT l'a déjà jugée injuste et brutale. Pourquoi ?
Ce qu'on juge injuste et brutal, d'ailleurs, ce n'est pas ce qui est dit dans l'extrait. Là, dans l'extrait, il parle de relèvement du minimum contributif. Oui. Nous, on est tout à fait d'accord avec ça. On pense même qu'il faut aller, pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a été payé au SMIC, d'avoir l'équivalent du SMIC au moment de la retraite, c'est juste normal.
1300 euros.
Ouais, ça devrait être ça, ouais. C'est ce que nous pensons, ce que nous revendiquons. Là, il dit 1100, c'est bien, mais on verra si on peut, nous on souhaite aller plus loin. Ce qui serait injuste et brutal, c'est de relever l'âge légal de départ en retraite. J'explique. D'abord, il faut qu'on nous dise pourquoi on veut le faire. Est-ce que c'est pour maintenir l'équilibre du régime des retraites ?
Si la CFDT, d'accord.
Et la CFDT, elle n'a jamais fui ses responsabilités. Je vous rappelle 2003-2013, lorsqu'il était question de maintenir cette richesse qui est la nôtre, hein, qui est collective, c'est notre système de retraite par répartition. Là, ce que nous disent les comptes, c'est qu'il n'y a pas le feu dans la maison sur l'équilibre des systèmes de retraite. Mais ce qu'on nous dit, c'est oui, mais si on travaille plus longtemps, on aura plus de ressources, on pourra payer autre chose.
La dépendance, autre chose.
Ouais, la dépendance. Vrai sujet sur lequel il y a besoin de d'une vraie prise en charge de la dépendance. Moi, je pose la question, et j'ai un peu la réponse en la posant, je l'avoue. Est-ce que c'est au système des retraites de payer la dépendance? Est-ce que ça ne peut pas se faire par d'autres sources de financement?
Bon, nous, ça, c'est une question. Mais Emmanuel Macron dit 65 ans, à la limite, ça se discute. Vous êtes sur 62. Non, mais qu'est-ce qui est négociable? Jusqu'où est-ce que c'est négociable?
Non, y a pas, nous, on ne veut pas rentrer par l'âge légal. C'est clair.
Vous étiez pour la retraite à point.
Nous, on est pour la retraite à point et on pense que le seul repère qui vaille, c'est la durée de cotisation.
Mais imaginons que le président de la République tienne
64 ans ou 65 ans, eh ben on s'y opposera, on essaiera d'expliquer dans les concertations. Il dit qu'on va concerter, on expliquera et on argumentera pourquoi on est contre. 64 ans ou 65 ans, ça veut dire que les personnes qui ont des métiers pénibles, qui ont des carrières longues, on avait obtenu une mesure en 2003 avec le départ anticipé pour ceux qui avaient des carrières longues. Il y a plus d'un million de travailleurs qui en ont bénéficié, qui sont aujourd'hui en retraite. Eh bien, ceux-là, ça veut dire qu'ils travailleront non plus jusqu'à 60 ans, mais jusqu'à 62 ans. Des gens qui ont parfois commencé à 16 ou 17 ans. Donc, ils vont cotiser 45 ou 46 ans.
Donc, vous ne négociez pas la question de l'âge?
Non, on ira discuter. La CFDT, je ne peux pas vous dire qu'on a besoin d'espace de concertation et qu'on n'ira pas discuter. Mais on dira qu'on est contre cette mesure et on s'y opposera très clairement, je le dis. Mais on proposera des alternatives. Et l'alternative, c'est de prendre davantage en compte la difficulté des carrières, de prendre en compte... vous savez, moi je suis assez frappé d'un certain nombre d'employeurs qui nous disent « Mais si, il faut travailler jusqu'à 65 ans » et qui, dans leur entreprise, mettent les gens dehors à 58, 59 ou 60 ans. Ou oui. Qui vous disent en loose day « Moi, mes salariés, ils vont avoir du mal à travailler ou à monter sur les toits après 60
ou
ans. »
Ou à pédaler à vélo pour livrer des plats commandés. Dernière question avant de passer à la suite, mais Emmanuel Macron est à la recherche d'un Premier ministre. Il doit répondre à quelques-uns des critères que vous avez évoqués, être attaché à la question sociale, à la question environnementale, aux questions de productivité. Vous remplissez les trois critères. Si la proposition vous est faite, vous y allez?
Non, pas du tout. Non.
Non,
non, non, non, évidemment non. Et je
ça a été suggéré cette semaine par l'eurodéputé Bernard Guévin. Ouais,
je l'invite vraiment à ne pas faire cette proposition. De toute façon, la réponse est claire, c'est non. Pour deux raisons. C'est d'abord, moi, je suis un syndicaliste. Et donc, le syndicaliste, il ne mélange pas les genres dans notre pays. Donc, moi, je suis du côté des travailleurs et travailleuses et je fais ce travail-là. Il est utile. Il y en a d'autres qui sont utiles. Hein, c'est très utile, un Premier ministre, mais ça ne peut pas être moi. La deuxième raison, c'est que ça brouillerait totalement les pistes. Et donc, on a besoin d'un Premier ministre qui sache écouter, ou d'une Première ministre qui sache écouter, qui soit capable de faire la transition écologique, d'avoir une ambition de justice sociale. Mais il va sûrement trouver. Mais ça peut
probablement.
Ça sera pas
parmi
moi,
les
c'est
66 millions de Français.
Je crois que c'est un peu une blague.
Voilà, au moins
de proposer ça.
Sur lequel il peut faire une croix. Vous restez avec nous, Laurent Berger. On continue à évoquer l'actualité du jour avec la story de Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed, dans ta story ce soir, l'association 40 millions d'automobilistes qui s'indignent, 6 PV sur 10 pour excès de vitesse en France concerne de tout petits excès, en tout cas inférieurs à 5 km/h.
Ouais, et avant ça, on a demandé aux Français comment ils perdaient leurs points sur la route.
Comment vous les perdez ces points au quotidien?
Globalement, avec des excès de vitesse à très faible vitesse, souvent c'est 1 ou 2 km/h.
Excès de vitesse 52 au lieu de 50.
C'est le truc qu'on fait le plus fréquemment, parce que mine de rien on fait quand même attention, mais ça joue à très peu.
La plupart du temps, ça ne correspond pas à un comportement dangereux.
Moi, je serais assez pour qu'il y ait une amende, mais pas forcément enlever les points.
Non, non, moi je suis affreux, mais je suis pour les contraventions, donc désolé. C'est très bien de se remettre un peu plus d'équerre, surtout sur la sécurité routière.
Mais 58% des contraventions pour excès de vitesse en France sont adressées pour des dépassements de moins de 5 km/h de la vitesse maximale autorisée. Et ça touche aussi les automobilistes en France, comme le rapportent 40 millions d'automobilistes. 7,2 millions de PV de vitesse en France pour ces 5 petits km/h en 2020. Des petits excès qui pèsent beaucoup sur les ménages français, notamment dans les zones rurales où les Français ne vivent pas tous à côté de leur travail. Pour la sénatrice Les Républicains du Var, Françoise Dumont, il est donc temps d'assouplir la loi. Il faut faire preuve de pédagogie.
Il faut maintenir la peur du gendarme et la peur de la sanction. Il ne s'agit pas de dire, pour toutes ces infractions-là, on supprime la contravention. On pourrait imaginer que lorsque vous commettez cette première infraction de 1 à 5 km heure de dépassement, vous puissiez recevoir un courrier, qu'il y ait un premier avertissement, qui soit une chance donnée, quelque part, si je puis dire, de sauver les 68 euros et le point en moins sur le permis, et que la seconde fois, si alors vous récidivez, à ce moment-là, vous ayez la sanction qui tombe.
Une mesure vue d'un bon œil par l'association 40 millions d'automobilistes qui va encore plus loin pour elle, pénaliser ces micros excès de vitesse et le signe que l'État a enclenché la machine à fric, ce sont les mots de l'association. Elle justifie ces micros excès par les changements réguliers de la vitesse autorisée sur une même route. C'est le cas par exemple lorsque plusieurs tronçons limités à 80 km/h puis à 90 km/h s'enchaîne. Pour 40 millions d'automobilistes, il faut supprimer ces contraventions pour ces délits souvent involontaires et quasiment jamais accidentogènes.
Les Français, de façon générale, peuvent être complètement perdus et commettre un excès de vitesse sans le vouloir, bien évidemment, tout en étant très respectueux de la vitesse limitée. Donc, j'ai envie de vous dire qu'à la limite, c'est même l'État aussi qui a engagé cet excès de vitesse et qui a engagé ces petits excès de vitesse qui vont punir gravement les Français, puisque c'est ceux-là qui vont annuler les permis de conduire, c'est ceux-là qui vont faire qu'il y a 100 000 annulations du permis de conduire par an, et c'est ceux-là qui vont faire qu'actuellement, il y a à peu près 1 million de Français qui conduisent sans permis de conduire.
Mais vous l'imaginez bien, du côté de la prévention routière, on n'est pas vraiment du même avis, on ne partage pas le même point de vue. Changer la règle pourrait toujours créer un effet de seuil supplémentaire.
Supprimer ces micro-contraventions ou ces micro-dépassements de vitesse reviendrait finalement à décaler le seuil. Et donc vous allez créer de nouveaux mécontents qui seront à la limite d'un nouveau seuil. Admettre qu'on pourrait circuler 5 ou 10 km/h au-dessus, ça laisserait supposer que toutes ces autorités compétentes qui ont tous les éléments dans la matière pour déterminer cette vitesse maximale autorisée se sont trompées. Donc non, elles ne se sont pas trompées. Donc ça veut dire que ces vitesses maximales autorisées, elles ont été installées à bon escient.
Et la prévention routière opte plutôt pour un rétrécissement des délais de réception de ces amendes et retraits. Il peut être aujourd'hui de plusieurs semaines pour les Français.
Mohamed parlait des 80-90 km/h de cette question de limitation de vitesse. Vous êtes un observateur avisé de la société française. Pourquoi est-ce que cette question-là de la limitation de vitesse est un sujet qui passionne, déclenche autant de passion en France? C'est pas le cas partout ailleurs en Europe.
Parce que je crois qu'il y a un rapport à l'obligation versus la liberté qui est très particulier dans notre pays. Moi, je suis pas d'accord avec la proposition, même si à titre personnel, ça m'arrangerait. Mais j'ai pas l'habitude de prendre des positions qui m'arrangent à titre personnel. Il y a des règles. Bon, bah voilà. Je veux dire, on a aussi, par rapport à quand on était enfant, le nombre de morts sur les routes a largement baissé.
Diminué.
Et on en est très content. Donc voilà, il y a des règles, elles s'appliquent. Et quand on les dépasse, même si c'est pour pas beaucoup, c'est vrai que c'est rageant, mais c'est comme ça.
Le message est passé, vous restez avec nous, Laurent Berger, merci Mohamed. L'actualité aussi, c'est évidemment l'actualité dramatique à l'est de l'Europe, Eva, avec une guerre en Ukraine et une guerre qui change de nature.
Oui, il y a eu deux événements ces dernières 24 heures. D'abord à l'est en Ukraine, des bombardements à Kiev où se trouvait le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis à l'ouest, nouveau message de Joe Biden, le président américain a réaffirmé l'engagement des États-Unis auprès des Ukrainiens avec une montée en puissance de l'aide américaine. Il avait déjà donné 13,6 milliards de dollars au début du mois de mars. Joe Biden a annoncé une nouvelle allocation de 33 milliards de dollars, dont les deux tiers pour l'assistance militaire. Une somme spectaculaire, renforcée par une autre mesure, celle de pouvoir saisir et liquider les actifs d'oligarques russes. L'argent serait alors destiné à financer le soutien aux réfugiés et à la reconstruction du pays. La déclaration de Joe Biden a donc été très claire. Il s'agissait d'affirmer l'engagement financier et militaire des États-Unis, mais aussi un engagement politique.
We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion. Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it. Russia is the aggressor. And the world must and will hold Russia accountable.
Les mots du président américain prouvent l'approche toujours plus offensive du conflit. Les États-Unis occupent le terrain.
et évidemment le font savoir.
Bonsoir Corentin Célin.
Bonsoir.
Bienvenue sur le plateau de C'est à vous, professeur agrégé d'histoire, l'un des meilleurs spécialistes des États-Unis. Merci d'essayer d'y voir plus clair puisqu'il y a quelque chose qui a changé. Oncle Sam était réticent, mais il s'investit maintenant toujours plus, Éval disait, dans la guerre en Ukraine. Financièrement, c'est vrai que les chiffres sont spectaculaires. 33 milliards de dollars d'aide supplémentaire, c'est considérable. Qu'est-ce qui a basculé? Qu'est-ce qui a décidé Joe Biden à faire ce pas et ce très grand pas-là?
Oui, alors déjà, c'est énorme. Il faut se rendre compte que le dernier paquet d'assistance qui a été voté par le Congrès en mars, hein, c'était pas il y a si longtemps, c'était 13,6 milliards. Donc on voit qu'on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Il y a trois choses, je pense, qui ont changé. Premièrement, c'est que cette assistance américaine, elle fonctionne. L'Ukraine résiste beaucoup mieux que prévu à la Russie. Le conflit dure et d'ailleurs, l'administration Biden se vante de que cette assistance permette la résistance ukrainienne. La deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, c'est une cause qui rassemble. Ça, c'est peut-être la grande surprise.
Alors ça, justement, on va y venir parce que c'est une très grande différence avec la France. D'abord, le président américain a moins de pouvoir que le président français. Et en l'occurrence, il doit demander au Congrès l'approbation de ce plan d'aide supplémentaire. Et le Congrès le suit.
Oui, alors, on va revenir parce qu'il y a une petite subtilité, mais le Congrès, normalement, devrait le suivre parce que les républicains, aussi bien les électeurs que les élus, très massivement, sont contre la Russie, on retrouvait cet antagonisme de guerre froide hein, contre la Russie, et sont en faveur de l'Ukraine. Zelensky a été acclamé au Congrès. Donc il y a vraiment une unanimité. Et c'est là-dessus que Biden joue, qui est un président impopulaire, voire même très impopulaire en ce moment. Donc là, il a une cause où bon, il peut rassembler la nation. Alors il y a cependant une petite subtilité. Ce qu'il a dit hier, c'est une demande au Congrès. Et à côté de l'Ukraine, les républicains font une vie infernale par contre à Biden, refusent tout.
Sur tous les autres sujets.
Exactement. Et les démocrates sont tellement désespérés au Congrès qu'au Sénat, le chef des démocrates au Sénat, Schumer, a proposé de lier un plan Covid de 22 milliards avec l'aide en Ukraine.
Avec l'espoir que ça passe.
Voilà, parce que les républicains seraient obligés de voter parce qu'il y aurait Ukraine marqué dessus. Mais les républicains ont dit on n'est pas d'accord. Donc là, il peut y avoir un petit blocage.
Alors ça, ce sont les subtilités de la vie politique américaine, mais en l'occurrence, 20 milliards de dollars consacrés à l'aide militaire. Si on doit l'expliquer en fait, très simplement, c'est une manière de faire la guerre sans faire la guerre.
Oui, absolument. Et c'est ça qui a changé aussi. C'est-à-dire que, souvenons-nous, il y a deux mois, on disait, les États-Unis disaient surtout pas d'engagement direct, attention, Troisième Guerre mondiale, hein, même Joe Biden avait employé ces mots. Et aujourd'hui, même s'il répète pas de troupes au sol, pas d'engagement militaire direct, il dit il va le plus loin possible de cette limite qu'il a fixée. Et aujourd'hui, on n'est plus très très loin quand même. Une forme de co-belligérance, il faut bien le dire.
Même si on l'a entendu tout à l'heure, Eva diffusait cette conférence de presse de Joe Biden où il répétait que les États-Unis n'étaient pas en guerre contre la Russie.
C'est un fait, ils ne le sont pas. Mais c'est vrai qu'on s'engage beaucoup plus parce qu'il y a eu un changement dans les mots. Le week-end dernier, le secrétaire à la Défense Austin a dit,
on va l'entendre,
à Kiev, a dit « ce qu'on recherche, c'est à affaiblir la Russie ». Donc on voit bien qu'on n'est plus simplement dans une assistance à la petite Ukraine qui combat la Russie, on est dans un face-à-face qu'on veut installer avec la Russie. Donc on a quand même changé de discours. Alors évidemment, reste l'interdit absolu d'entrer en guerre directement avec une intervention militaire directe, mais on se rapproche le plus possible de cette limite.
On va y revenir justement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le président Zelensky qui communique, mobilise la résistance russe, Joe Biden qui met des milliards de dollars ou d'euros sur la table, et les Européens ?
Alors, ça reste quand même toujours une obsession de l'administration Biden. Il l'a encore répété hier soir. Ce qui permet d'ailleurs de nuancer, de montrer, de dire non, vous voyez bien, on est plusieurs, c'est de mobiliser les alliés, en particulier les alliés européens. Les fonds qui seront débloqués si le Congrès les vote, c'est des fonds aussi pour aider certains pays européens qui sont, comme la Pologne, par exemple, qui accueillent des réfugiés. Donc, il s'agit aussi de toujours mobiliser les pays européens. Même si on ne sait pas précisément, mais on sait que les troupes américaines entraînent aux nouveaux armements qu'ils livrent les troupes ukrainiennes, sans doute, on n'est pas sûr, hein, mais peut-être bien en Pologne. Donc on voit bien que les pays OTAN européens sont mobilisés pour aider, pour entraîner, et ils participent aussi. Donc ça, c'est toujours, l'administration Biden fait attention on est dans du multilatéral. On n'est plus du tout dans les États-Unis font tout seul. On ne veut pas réveiller le spectre du multilatéralisme.
Les Britanniques ont envoyé 8000 soldats dans les pays tout à l'est de l'OTAN. Vous ne portez pas un ruban aux couleurs de l'Ukraine par hasard. Vous allez nous dire pourquoi, Laurent Berger. Mais en tout cas, c'était la première fois, Corentin, depuis le début du conflit, que deux des membres les plus éminents de l'administration Biden ont fait le voyage pour rencontrer le président Zelensky. C'est le secrétaire de la Défense Lloyd Austin, le secrétaire d'État Anthony Blinken, celui qui est en charge des affaires étrangères, et Lloyd Austin à la Défense déclarait ceci.
I want to see Russia weakened to the degree that it can't do the kinds of things that it has done in invading Ukraine. They believe that we can win. We believe that they can win if they have the right equipment, the right support. And we're going to do everything we can, continue to do everything we can to ensure that that gets.
Il y avait les sous-titres, mais explication de texte.
L'explication de texte, c'est qu'on n'est plus du tout, et ça a été repris par le département d'État et par les diplomates depuis, on n'est plus seulement dans une assistance à l'Ukraine, on veut affaiblir durablement l'autoritarisme russe, le régime dictatorial russe, pour que, comme l'a dit le général Austin, il ne puisse plus refaire ce qu'il a fait. Et on retrouve là la stratégie Biden. La stratégie Biden, c'est le combat mondial des démocraties contre les autoritarismes. Il y a deux grands pôles autoritaires qui sont la Russie et la Chine. Il se trouve que la guerre en Ukraine permet d'affaiblir la Russie, eh bien allons-y.
Mais alors justement, les Américains voulaient se concentrer sur la Chine, c'est ce qu'on a dit au moment où Biden prenait les commandes et s'installait à la Maison-Blanche. Ils se sont réengagés massivement en Europe. C'est un contre-temps dans la stratégie américaine ou est-ce que c'est une révision stratégique en catastrophe ?
Moi, je ne pense pas, parce que si on regarde le premier discours de politique étrangère de Biden à Munich en février 2021, il dit clairement, il y a une ligne, il dit l'Ukraine sera la ligne de fracture dans ce combat entre démocratie, autoritarisme, et il faudra venir en aide à l'Ukraine. C'était déjà anticipé. Ensuite, j'allais dire que l'actualité décide, ce n'est pas lui qui a décidé de faire la guerre en Ukraine, c'est bien Poutine. Mais c'était déjà anticipé, on savait qu'en Ukraine, il y avait un combat, il y avait une ligne de front entre démocratie, autoritarisme qui était à venir.
Pierre.
Et pendant ce temps-là, Corentin Célin, on se croirait presque dans un film politique du XXe siècle, un échange de prisonniers russes et américains. Ça s'est passé mercredi sur le tarmac d'un aéroport en Turquie. À l'issue d'un long processus de négociation, l'ancien militaire américain Trevor Reed a été échangé contre le citoyen russe Konstantin Yarochenko, qui avait été condamné à 20 ans de prison par un tribunal américain. Pas question d'y voir, au contraire, une détente, c'est une concordance des temps.
C'est une pure concordance des temps. Biden et sa diplomatie l'ont dit, mais ça montre quand même qu'à l'échelon diplomatique,
on cause.
Voilà, on cause toujours. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant.
Mais c'est intéressant aussi de voir qu'il y a une mobilisation qui dépasse les États, qui dépasse la simple diplomatie. On a vu, par exemple, que la CFDT faisait partie d'un ensemble de syndicats, d'une intersyndicale française qui se mobilise pour aider, fournir de l'aide humanitaire aux syndicats ukrainiens.
Oui, dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats que je préside, on appelle tous nos affiliés à soutenir en lien avec les syndicats ukrainiens, à soutenir les syndicats ukrainiens. Donc on organise un convoi qui partira dans quelques jours, un convoi ferroviaire, toutes les organisations syndicales françaises, avec du matériel qui correspond aux besoins exprimés par nos collègues ukrainiens. On fait ce qu'on peut à notre niveau, c'est insuffisant, mais on appelle ça d'abord. En ce moment, on est à collecter les produits qu'ils nous ont demandés. Et puis, de l'autre côté, on organise aussi avec nos adhérents ici l'accueil des réfugiés ukrainiens, y compris dans des familles de militants. Ça se passe dans beaucoup d'endroits sur le territoire français. Voilà, on fait notre solidarité parce que nous, notre combat, c'est aussi le combat pour la démocratie et ça a été très bien dit.
C'est aussi la question d'une manière ou d'une autre qui est liée au combat contre l'inflation puisque une grande partie de la hausse des produits de première nécessité est liée de manière indirecte ou directe à ce qui se passe en Ukraine, au moins quelque chose qui mobilise les syndicats, je vais le dire en souriant, mais en l'occurrence, vous avez prévu de défiler ensemble au 1er mai entre syndicats
pas. Non, on ne défile pas ensemble au 1er mai. On a des initiatives différentes.
Donc tout change, mais rien ne change.
Si, ça change. Vous voyez, sur l'essentiel, sur un certain nombre de sujets, on se mobilise ensemble. Après, on ne se ment pas entre nous, on n'est pas d'accord sur tout. Bon, bah, quand on n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Mais vous voyez, on fait ce convoi intersyndical à l'Ukraine. On a agi ensemble. On est en train d'organiser des collègues afghans. On a une réunion lundi sur le sujet pour organiser la résistance aussi des syndicalistes afghans à partir de l'Europe. Voilà, on ne se mobilise pas surtout ensemble, mais on est capable d'agir ensemble sur certains sujets.
Merci à tous les deux. Vous restez avec nous tout de suite. Le 5 sur 5, Mathieu Béliard.
Bonsoir Mathieu, à toutes et à tous.
Et on part direction le Royaume-Uni et l'Angleterre, oui. Où un tabloïd, on peut dire les choses très clairement, il a complètement dérapé en s'en prenant à une députée.
Elle s'appelle Angela Rayner, c'est la numéro 2 du Parti travailliste, donc forcément, elle est souvent opposée à Boris Johnson, le Premier ministre, et à Westminster, vous le savez, elle lui fait directement face. Le Mail on Sunday s'est complètement lâché sur le terrain de la misogynie. Le journal accuse Angela Rayner d'utiliser une stratégie, je les cite, « basic instinct » pour déconcentrer Boris, c'est comme ça qu'on l'appelle par son prénom apparemment, référence au croisement-décroisement de jambes de Sharon Stone dans le film des années 90. Angela Rayner a répondu à ce tabloïd dans une interview.
When I heard the story that was coming out and we rebutted it instantly and was like, this is disgusting, it's completely untrue, please don't run a story like that. Because I've got teenage sons and I felt really sad again that my weekend and I was trying to prepare my children for seeing things online that they don't want to see their mum portrayed that way. And I felt really down about that, but I was overwhelmed by people's response because I just thought, is that what people expect and think about what I do?
Ça n'est pas passé inaperçu, polémique outre-Manche, et même si des conservateurs sont cités anonymement dans l'article au Parlement, tout le monde, quelle que soit l'étiquette politique, tout le monde s'est indigné de ces propos sexistes.
Has sent a clear message that there's no place for sexism and misogyny. All looking down on people because of where they come from, in his party.
There could be absolutely no place for such behaviour or such expression in this house.
56 members of this house are under investigation for sexual misconduct. So can he now confirm whether he considers that sexual harassment
is intolerable, and it's quite right that members should now have a procedure by which they can bring that to the attention of the house authorities. And I think that's a good thing.
Vous avez entendu ou lu la référence à des enquêtes en cours sur des propos ou comportements inappropriés de députés anglais, une cinquantaine d'élus concernés, un ancien ministre notamment. Et c'est alors qu'éclate un autre scandale au Royaume-Uni.
Frontbench MP, no less, apparently watching porn in the Commons chamber.
Yeah, this is quite a shocking story.
He's said to have been spotted watching porn on his mobile phone while sitting in the House of Commons, on the floor of the House.
I can't believe we're talking about this, Alison. It's on the front page of your newspaper this morning. It just keeps getting worse and worse.
Sadly, I'm not that surprised by it because there have been examples of this before. There was a very senior Conservative got caught watching porn on a laptop.
Vous l'avez compris, un député britannique accusé d'avoir regardé du porno en pleine séance parlementaire, un conservateur. Son nom n'a pas été dévoilé, mais son cas a été évoqué lors d'une réunion du parti sur cette question, justement, la réunion sur cette question des comportements sexistes au Parlement. Le Parti conservateur a ouvert une enquête.
Et il y a le retour de l'émission Nous, Président, avec ta voix chaleureuse, Mathieu, qui a rythmé la campagne présidentielle, qui revient demain soir sur France 5. Enfin. Ce sera à 20h25.
Enfin.
Enfin, justement, pour avoir un autre regard sur cette campagne folle qui vient de se terminer.
Oui, mais j'arrivais pas à garder ça pour nous, alors je voulais le partager avec vous, les amis. Nous sommes auprès des Français que nous suivons depuis la fin de l'été, épilogue de cette campagne. On les a accompagnés au premier, au second tour et entre les deux, bien sûr. Alors d'abord, très simplement, après il y a des sujets plus de débat et de polémique, mais alors que l'abstention était extrêmement forte, je voulais partager avec vous la joie de Jeannette. C'est une femme de ménage à l'Assemblée nationale, tout juste naturalisée française, sa joie et sa fierté d'aller voter pour la première fois.
Un grand jour pour moi, pour la première fois. Je vais aller voter, là. Il faut que je m'habille quand même un peu. Je suis française maintenant, là. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment... qui tombe du ciel, quoi. Et je fais comment, là? Je prends tout ça, là. Je prends tout, tout, tout. Ça y est.
À voter.
Ça y est.
Oh.
On dirait que j'ai envie de pleurer. Ça fait quelque chose, hein. Eh oui. Je dis vive la France, vive la République. On est française.
Le droit de voteur, ça fait du bien quand même, quand on parle aussi de beaucoup de choses qui vont moins bien. Alors déjà une victoire pour Jeannette, dit-elle. Alors je vous présente à présent des jeunes militants Reconquête. Le jour du premier tour aussi, ils étaient plutôt confiants.
Vous pouvez voir que j'ai voté le 10 avril 2022 pour un certain Éric Zemmour. C'est secret le vote.
Moi je suis très fier de cette campagne, les gars, je vous le dis. J'ai perdu 90% de mes amis. J'ai perdu, sans exagérer, 20-25% des gens de ma famille.
Tu as gagné une grande famille.
Mais j'ai gagné une grande famille et je suis très heureux. Et si c'était à refaire, je le referais.
Bon, moi, j'ai pris du champagne, j'anticipe sur le résultat final.
Ouais.
À la vôtre.
Leur nom et leur visage dans moins de 5 secondes.
On n'est pas au second tour.
C'est un coup dur.
Oui, bien sûr. Il y a la présence de la caméra qui ne facilite pas les choses. Comment maîtriser ses émotions, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours un peu délicat.
Et puis dans l'entre-deux-tours, sur toutes les chaînes, on a pu voir une question apparaître, une question qui a pu paraître saugrenue. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? Et pourtant, ça fait débat. Écoutez, de la Camargue, là on est au sud, au nord du pays, juste avant les résultats du second tour.
Je ne sais pas si on peut traiter Marine Le Pen aujourd'hui d'extrême droite. Pourquoi on veut toujours l'attacher d'extrême droite? C'est peut-être pour que l'autre candidat en bénéficie de cette mauvaise presse d'extrême droite, la peur que ça engendre.
Ah, t'as attrapé quelque chose?
Non.
Rien?
Non, rien du tout.
T'as voté le bon?
J'ai voté la bonne.
Ah, c'est bien. Hein. T'as voté Marine, t'as bien fait. Faut du changement.
Moi, ça fait des années que je vote Marine, alors... Même temps du père, alors c'est...
Exactement.
Moi aussi. Et je m'en cache pas.
Bah, j'espère qu'on va gagner.
Ouais, on a l'espoir. C'est pas battu 3 ans et demi pour rien dans la rue, hein.
Non, mais bon, exactement.
C'est pas normal qu'un ouvrier qui travaille, qu'on n'arrive plus à vivre.
Ce monsieur que vous voyez et son épouse, ce sont des gilets jaunes de la première heure. Ils avaient voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, Marine Le Pen au second, vous l'avez compris. À 20h, forcément, dimanche dernier, ils étaient déçus. Écoutez-les.
On est dégoûté. Hein. Quand on s'est battu 5 ans dans les manifestations, on s'est fait gazer, on s'est fait matraquer. Ben les gens, ils n'ont rien compris. Hein.
Je ne me bats plus, c'est fini.
Pour nous, ça nous fait quelque chose. Hein. Elle va pleurer.
Mais trop donné.
Laurent Berger, au-delà des considérations politiques, qu'est-ce que vous dites à cette femme qui dit qu'elle va arrêter de se battre, qui est complètement découragée? Je ne me bats plus, c'est fini.
Non, j'ai envie de dire que ça oblige les uns et les autres à trouver des solutions aux problèmes qu'elle peut avoir, qu'elle n'explique pas ici.
Pas ici.
Vous reprenez les mots du président de la République, Emmanuel Macron. Ça oblige.
Mais bien sûr, ça oblige. Il y a 42% qui ont voté pour une candidate d'extrême droite. Ça n'est pas 42% des gens qui sont d'extrême droite. Il y a des gens qui ont ce sentiment, à juste titre parfois, d'être oubliés, pas considérés, etc. Et donc ça oblige les uns et les autres, les politiques, les organisations syndicales, les employeurs, les patrons, les médias, à procéder autrement pour que ces gens-là se retrouvent dans ce qui doit être notre commun et l'orientation de la société. Et donc, ce serait totalement... Moi, je l'ai combattu entre les deux tours très fortement. Oui. Marine Le Pen, je ne voulais pas qu'elle soit présidente de la République. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la considération pour les gens qui ont considéré que ça pouvait être une solution. Ça n'aurait pas été une solution.
Mais Mathieu, rappelez que ces personnes...
Qu'on leur en trouve,
enfin, c'était des gilets jaunes, en tout cas des personnes qui se sont engagées dans ce mouvement-là. Et c'était un moment où l'essence avait augmenté de quelques centimes d'euros aujourd'hui, quand vous voyez l'inflation et les prix de l'essence augmenter autant, enfin, comment expliquez-vous que ça n'explose pas socialement?
D'abord, on est dans une période électorale. Donc je ne vais pas vous faire. Non, on est dans une période électorale. Donc évidemment, que dans ces moments-là, c'est l'élection qui polarise les comportements, les ressentiments, etc. Là, c'est pour ça qu'il va falloir faire autrement. Il va falloir beaucoup d'humilité, beaucoup moins d'arrogance qu'il n'y en a eu par le passé, et écouter, et puis essayer, encore une fois, de trouver des solutions sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur ce qui peut provoquer la volonté de voter Marine Le Pen, alors que ça n'aurait pas apporté les solutions, sans doute, à ces personnes.
On continue, Mathieu, avec la vigne, les vignes françaises à l'épreuve du changement climatique.
Oui, les vignes du monde entier. En réalité, cette semaine, l'Organisation internationale de la vigne et du vin nous apprenait la baisse de la production viticole mondiale en 2021. Pour ce qui est de la France, troisième année consécutive, 19% de baisse des rendements, chute vertigineuse. Les spécialistes préconisent de s'adapter, de changer de raisin, de cépage, notamment, quitte à modifier des appellations sacrilèges pour certains. Mais chez les viticulteurs, le changement climatique, c'est déjà extrêmement concret. Il y a les épisodes de gel, les périodes de sécheresse, il y a aussi les maladies de la vigne qui vont avec et qui s'amplifient. Avant de déménager le vignoble bordelais en Normandie ou le champagne en Angleterre, nous avons une solution ce soir dans C'est à vous, aux frontières de la légalité. Vous allez le voir, je vous présente un cépage réputé résister à tout, le jacquet, cultivé en France au XVIIIe siècle, avant de conquérir le Nouveau Monde. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que c'est un cépage américain. Depuis 1934, il est interdit à la vente parce qu'il n'entre pas dans les listes officielles de cépages autorisés. Alors ce soir, je vous emmène à Beaumont. C'est en Ardèche où un viticulteur cultive de petites quantités de ce jacquet. Il y a quelques mois, au moment des vendanges, Ibrahim Raïs et Anaïs Recouli sont allés rencontrer Hervé.
Alors, cette couleur.
Elle veut dire quoi, cette couleur ?
C'est un signe de maturité. Le jacquet est un teinturier, c'est un cépage, il a une grosse couleur. Et là, on est sur les rubis, pratiquement, c'est parfait.
Ce qu'elle a de particulier, cette vigne, elle résiste à beaucoup de choses.
Elle résiste très très bien à l'oïdium, pas mal au mildiou.
Elle résiste au gel aussi.
Elle résiste, oui, elle est assez tardive, donc c'est beaucoup plus facile pour elle de résister au gel qu'une vigne très précoce. C'est un cépage qui aime le chaud, hein, faut pas... il aime la chaleur. Donc si on parle de réchauffement climatique, le jacquet est adapté. En tout cas, pour ce qui est de la chaleur, il est parfaitement adapté. Les petits paysans français, en 1934, étaient encore très nombreux. Ils avaient tous choisi de cultiver de la vigne américaine, peu importe la couleur du drapeau national. Ce qui compte, c'est la qualité du vin et surtout sa résistance aux maladies.
Une vigne qui échappe au gel, qui aime la sécheresse, qui résiste au mildiou. Hervé produit en fait un vin naturel sans intrants et du coup on l'a suivi dans son travail.
Le principe avec le vin naturel, c'est qu'une fois que c'est en cuve, on ne fait plus rien en fait.
Si là, j'ai un peu d'oxygène. Les levures ont besoin d'oxygène pour finir leur travail, pour travailler. Donc là, je l'aère un petit peu en passant à l'air et je le remets en cuve.
C'est la seule manipulation pour un vin qui sera du coup nature.
Voilà, exactement.
Et ensuite, c'est le destin.
Non, les levures font leur travail, là. Ils fermentent normalement, tout se passe bien, la température est bonne, tout va bien.
C'est censé être une bonne année pour vous, normalement, en termes de qualité.
Oui, la qualité semble être excellente. Petit volume, mais très bonne qualité.
Alors, vous allez me demander comment font des gens pour le boire s'il est interdit à la vente. En fait, Eva me l'a demandé pendant un des sujets.
Elle avait les yeux qui brillent.
Notre viticulteur a monté une association, La Mémoire de la Vigne. En adhérant pour 10 euros, vous avez droit à une bouteille légalement, c'est malin. Mais il n'empêche, la réglementation déçoit les restaurateurs alentours.
Bah, c'est frustrant. On ne peut pas dire à la nature de ne pas exister. Et ces cépages, c'est des plants. Avant même d'être des cépages, c'est des plants de vigne.
Stéphanie, vous êtes la responsable de ce restaurant. Ces vins interdits, vous ne pouvez pas en vendre. Et pourtant, vous aimeriez en vendre.
Ah oui, j'aimerais beaucoup, parce que ça fait quand même partie... Bon, déjà, parce que c'est du vin qui est cultivé sur la commune. J'ai une clientèle qui serait friande de ce genre de trésor, en fait. Hein, voilà, et qui a un goût très particulier. Donc, effectivement, oui, vivement qu'on puisse le commercialiser.
Au jacquet !
Bon, s'il trinque à l'image, on va rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et oui. Que même le cépage jacquet est à consommer avec modération.
Non, il faut le dire en y croyant et vraiment face caméra pour que tout le monde entende le message. Merci.
L'abus d'alcool est dangereux à consommer avec modération.
Merci Mathieu. Les banderoles du 1er mai seront prêtes ?
Oui, nous, c'est un rassemblement à Paris, ouais.
Vous allez battre le pavé. Bah, écoutez, en tout cas, c'est un rendez-vous important pour les syndicats. Et donc, bon 1er mai, merci infiniment, Corentin Célin, j'allais dire Mathieu. Je te remercie toi aussi, Mathieu, mais d'abord, Corentin, pour vos explications. C'était passionnant et pour vous lire, il faut s'abonner au Jour sur Internet. Excellent magazine. Laurent Berger, merci d'avoir été avec nous. Les amis, on reste ensemble. Salut Jean-Baptiste Marteau. À suivre dans C'est à vous, une légende de la télévision, Jacques Martin, un documentaire exceptionnel sur une carrière, un destin. On en parle avec nos invités, Daniel Evenoux, David Martin, Virginie Lemoine et Frédéric Zetoun. Et à tout de suite pour les actualités, évidemment, de Bertrand Chameroy, vu et la story média de Mohamed et le dîner est presque prêt. À tout de suite.